Bonjour à tous, je suis très heureux de pouvoir, même à distance, vous présenter ces travaux donc, qui ont eu lieu, enfin qui s'étalent de 2010 à 2020 et qui sont toujours en cours. Alors vous voyez, il y a un certain nombre de logos, c'est tout simplement parce que ces travaux ont réuni un certain nombre de collègues, d'étudiants, et que ça résulte finalement d'un travail de groupe. Alors, je vais commencer par situer par parler du site d'études. Donc, l'Osweilergraben, c'est un cours d'eau urbain qui est situé à Strasbourg. Donc, vous voyez, vous avez un encadré en jaune sur l'image du cours d'eau. Donc, vous voyez qu'il est cerné un peu partout par comment dire, des ensembles urbains. C'est un cours d'eau qui est donc urbain, qui a été canalisé au fil de l'eau, au fil du temps, pardon, et qui présentait une faible vitesse d'écoulement et un certain nombre de rejets de temps de pluie qui étaient impactants. Entre autres, alors il y avait d'une part les rejets de pluie, mais il y avait aussi les rejets de tannerie à l'époque. Et donc l'Eurométropole de Strasbourg a présenté, enfin a proposé un projet de restauration du cours d'eau qui visait d'une part à gérer à restaurer la partie morphologique et d'autre part à prévenir les dégradations ultérieures, donc qui étaient surtout dues aux contaminations, soit des eaux pluviales, soit des industries. Alors, ce qui s'est passé, donc il y a eu ce projet de restauration. Donc là, ce que je vous propose, enfin ce que je vous présente, c'est un travail rétrospectif qui a été fait en 2017, mais les travaux ont lieu en 2010, de 2010 à 2015 à peu près. Donc il y avait plusieurs objectifs à ces travaux de restauration. Le premier objectif, c'était de dynamiser le débit du cours d'eau, donc passer de quelque chose de très rectiligne avec des vitesses d'écoulement très faibles à quelque chose de beaucoup plus méandré. Donc vous voyez une photo en bas à droite. On aperçoit un peu au loin un méandre qui a été recréé et un bras mort sur la gauche. Limiter l'envasement, donc ça a été en recréant des vitesses d'écoulement suffisantes. Augmenter la diversité des habitats aquatiques, ben, c'était ces alternances de méandres, de zones rectilignes et de bras morts, donc avec des zones à forte vélocité, des zones à faible vélocité, voire des zones stagnantes. Ensuite, il s'agissait de reconnecter des zones séparées. Donc, si je reviens un peu en arrière, vous apercevez, alors en bas à gauche, est-ce que vous voyez par hasard les flèches? Bon, alors, en bas à gauche de l'écran, il y a une zone humide de la
On
photo.
voit bien les flèches.
D'accord. Et en haut à droite aussi, un peu plus loin, il y a une zone humide. Donc, ces deux zones humides étaient finalement, le cheminement vers ces deux zones humides était interrompu au niveau de ce pont-là, où il y a la flèche, par des berges, enfin, par une morphologie de cours d'eau qui est celle que j'indique là. Donc, avec en fait des pale-planches de part et d'autre et un faible niveau d'eau qui n'était pas du tout amélioré par la morphologie du cours d'eau en U. Donc, pour reconnecter les deux zones humides, il a été finalement décidé de modifier l'aspect des berges avec donc un lit en V et non plus un lit en U, qui permettait d'avoir des berges émergées qui passaient sous le pont et de maintenir un niveau d'eau plus important dans le cours d'eau au cours de l'année, donc ce qui a permis de reconnecter des zones séparées. Et ce qui a eu comme conséquence la recolonisation de cette zone par le crapaud vert, ici en photo, qui est une espèce protégée et dont la réintroduction était un des objectifs du projet de restauration. La principale complication, ça a été qu'il y avait des sédiments pollués dus à l'activité des tanneries et qu'il a fallu les enlever et que ça a généré un surcoût qui a quand même bien ralenti le projet et finalement a modifié l'itinéraire de restauration. Au niveau de l'environnement d'études, afin de limiter les contaminations futures du cours d'eau, trois systèmes ont été mis en place. Donc, chaque système récupère les eaux d'un bassin versant dédié, et donc ce sont des eaux pluviales strictes. Ces systèmes sont constitués à chaque fois d'une mare, donc une étendue en eau avec plus ou moins de végétation autour, comme vous voyez sur les photos, suivie de zones telles que celle-ci, où vous avez un milieu un peu granulaire comme du sable, où vous avez des plantes qui sont installées. Et l'objectif, c'était à la fois d'écréter les niveaux d'eau pluviale et permettre de récupérer un certain nombre de contaminants présents dans les eaux pluviales avant qu'ils n'aillent contaminer le cours d'eau. Donc les travaux de création de ces zones ont commencé en 2010. Ensuite, depuis 2012 et jusqu'à aujourd'hui, en fait, un certain nombre de travaux se sont concentrés sur la gestion des eaux de ruissellement, notamment sur la gestion de la qualité et de la quantité d'eau. Donc vous pouvez voir à gauche le graphique, donc qui témoigne d'une efficacité à court terme, puisque donc c'était le résultat de travaux d'une doctorante qui a soutenu en 2015, et où on voit que autant pour la matière organique que pour les matières en suspension, on a une diminution au cours, enfin, le long du système. Donc, un, c'est en entrée de système, deux, c'est entre la mare et le filtre, et trois, c'est en sortie du système. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une forte diminution de ces paramètres au passage du système, donc la gestion de la qualité était de base assurée. De même qu'un écrêtage des flux, puisque seul à peu près 20% des événements pluvieux qui entraînaient du ruissellement entraînaient un déversement d'eau dans la deuxième partie du système. À moyen terme, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une accumulation des contaminants dans les deux zones humides. Donc ça, c'est le graphique en couleur où vous voyez que la quantité de plomb en un an a pu augmenter dans la mare. Par contre, elle peut diminuer dans certains endroits, donc la mare s'éponde. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces éléments métalliques dont le devenir ne peut être que le changement de phase s'accumulent dans la mare avec des niveaux élevés et que la caractéristique d'écrêtage est maintenue. Donc ça, c'était purement sur les eaux de ruissellement, la gestion des eaux de ruissellement. Ensuite, on a étendu un peu le champ de recherche avec les partenaires du CAPLTER, donc à Phoenix, qui travaillent beaucoup sur l'évapotranspiration, tout simplement parce que l'évapotranspiration en climat aride peut avoir un effet énorme. Et donc l'idée, c'était de voir quel pourrait être l'effet de cette évapotranspiration pour des zones humides alimentées par des eaux de ruissellement, donc une alimentation intermittente, et en climat tempéré non plus aride. Donc on a réalisé des investigations sur le terrain avec le collègue qui a ramené son analyseur de gaz infrarouge pour mesurer sur place la transpiration dans les plantes, enfin la transpiration due aux plantes. Et ce que ça nous a dit, c'est que clairement, on voit donc en jaune les taux de transpiration en été, en orange l'automne et en vert au printemps. Le taux de transpiration augmente bien évidemment avec la saison. S1, S2 et S3 sont les trois systèmes répartis sur le site. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, on a une multiplication par 3 ou 4 du taux de transpiration au cours de l'année, ce qui entraîne une conséquence importante, c'est que l'évapotranspiration, donc dans le cercle rouge, là, peut représenter de 2 à 16 fois le volume d'eau présent dans la zone humide. Ce qui veut dire que potentiellement, cette transpiration va générer un stress au niveau des plantes. Donc, on a étendu un peu les travaux de quelque chose de purement physico-chimique à un aspect biologique. Et ce qui s'est passé, en 2017, on a décidé de retourner voir ce que les résidents pensaient du système, comment ils se le représentaient. Donc avec ce système en zone fortement urbanisée et avec un début du projet qui était marqué par la controverse, notamment relayée par des journaux avec des aspects de technologie jardinatoire qui s'étaient finalement un peu apaisés. Donc les objectifs, c'était de mesurer comment les résidents se représentaient le système et comment ils comprenaient le fonctionnement. Donc après avoir réalisé des enquêtes quantitatives par questionnaire, en fait, 44% imaginent que des eaux de ruissellement passent dans le système, et par contre 57% ignorent que cette eau vient du système de collecte d'eau pluviale. Donc en fait, pour ces gens-là, c'est uniquement l'eau de pluie qui tombe au droit du système qui est traitée. Et par rapport à l'avenir du site, en fait, ce qu'on a pu observer, c'est que les gens étaient très contents de ce site, mais qu'ils ne souhaitaient pas qu'il soit ouvert au public, mais par contre qu'ils étaient volontaires pour que le, enfin volontaires, qu'ils étaient favorables au fait que le site serve d'exemple ailleurs. Donc, pas d'ouverture à proximité de chez eux, mais par contre, la propagation de ce type de système. Ensuite, on a, un peu plus récemment, on a étendu le périmètre, puisque là, on était vraiment très centré sur les sites, et on a un peu étendu avec les habitants. On s'est dit, mais finalement, ces habitants, puisqu'on a vu un certain nombre de fois des eaux de couleur un peu étrange qui arrivaient dans les systèmes, et la question qu'on se pose, c'est, finalement, est-ce que si les gens sont au courant de comment le système fonctionne et de ce qu'ils, du fait que ce qu'ils mettent dans le système arrive directement là-dedans et éventuellement au cours d'eau, est-ce que si les gens sont au courant, ils changeront leur pratique? Pour ça, il faut venir avec des informations un peu étayées. Et pour ça, notamment, comme on a une zone qui est cernée par une autoroute, des rails de train, des rails de tram à une distance relativement proche, si la pollution est due principalement à des sources lointaines, alors il paraît inutile d'aller voir les locaux, les gens, les riverains, et leur dire « attention, modifiez vos pratiques, ça modifiera ce qui arrive dans les systèmes », ce qui serait faux en l'occurrence. Par contre, si on voit que les sources principales sont celles dues à l'activité locale, alors ça peut avoir du sens d'aller les voir. Donc là, on est dans une espèce de travail préparatoire à une intervention auprès des citoyens et pour pouvoir mesurer une modification de pratique suite à la présentation de résultats scientifiques. Donc, on a réalisé des prélèvements sur un an, deux prélèvements par mois, avec finalement une évolution au fil de l'eau. Donc, on a prélevé dans des pluviomètres, dans des avaloirs, donc après ruissellement sur la chaussée et dans les mares, donc après passage dans tout le réseau. Et ce qu'on observe, c'est que pour un certain nombre de métaux, tels que le fer et le plomb, on a assez peu de métaux présents dans l'eau de pluie. Par contre, on a une augmentation forte au passage de l'avaloir et de la mare. Et par contre, c'est le contraire pour le nickel. Donc déjà, on a un comportement différentiel en fonction des métaux. Et on a également fait des analyses pour des molécules organiques. Mais ça doit nous mener à pouvoir distinguer entre une source lointaine et une source proche de pollution pour pouvoir ensuite approcher les résidents, si besoin, de façon pertinente. Actuellement, donc depuis 2019, il y a une doctorante qui travaille sur le site, mais cette fois sur un aspect un peu différent, puisque ces systèmes ont un peu plus de 10 ans, ou quasiment 10 ans, et qu'on assiste à une accumulation de sédiments, donc que vous voyez là dans le système de gauche, dans les photos de gauche, et que ces sédiments issus des eaux pluviales n'ont en fait pas forcément de législation propre à leur manipulation et à leur devenir, puisqu'on est surtout actuellement par rapport aux résidus solides pour les stations d'épuration, mais quasiment rien par rapport à ça. Donc, l'idée, c'est de documenter l'accumulation de sédiments, donc la quantité accumulée, la qualité de ces sédiments, donc avec une accumulation potentielle de contaminants, et la végétalisation qui se fait au niveau de ces systèmes. Donc, pour ça, on réalise une caractérisation de sédiments. Donc, vous voyez dans l'image de gauche l'évolution, pardon, des concentrations en cuivre, chrome et plomb dans les sédiments au fil des ans, et là, notamment également du zinc. Là, on a essayé d'analyser la végétalisation autonome, en fait, spontanée dans ces systèmes avec un dénombrement des espèces, notamment des diaspores, avec le type de piège que vous pouvez voir dans ces photos-là. Donc finalement, cet Osweiler-Graben représente un site atelier pour nous sur Strasbourg. Alors certes, il n'est pas aussi ancien que d'autres sites ateliers en France. Mais on a commencé en 2010 avec une approche de pure ingénierie écologique, donc avec la création des systèmes. Une
Deux
approche.
minutes trente.
Ok, parfait. Une approche ensuite centrée sur l'hydrochimie et l'hydraulique depuis 2012, qui s'est complétée par une approche en écologie des zones humides depuis 2013. Là encore, avec un élargissement du site avec une optique plutôt écologie de la restauration et psychologie de l'environnement. Cet élargissement du site donc s'accompagne d'une perspective plutôt chimie de l'atmosphère qui est complétée maintenant par une approche écologie végétale qui finalement nous permet de compléter le schéma conceptuel. Alors, j'irai pas jusqu'à dire qu'il est parfaitement complété, mais en tout cas, on arrive à rajouter des briques petit à petit, soit en élargissant l'échelle d'étude, soit en complétant les approches, ce qui en fait nous mène à une démarche qui est toujours en devenir, donc avec notamment la mesure des pratiques environnementales, ce que je disais, qui doit s'appuyer sur des résultats précis de contamination ou le plus précis possible, des implications citoyennes à favoriser, poursuivre le suivi à long terme avec quelque chose de plus standardisé et caractériser donc les fonctions écologiques de ce système. L'aspect opérationnel, j'en ai assez peu parlé, mais il est présent puisqu'on fait un retour d'expérience sur l'Aérométropole de Strasbourg en vue de répliquer ces systèmes. Et finalement, on a aussi des choses un peu plus appliquées, avec notamment une gestion un peu différente de la pollution entrante par l'utilisation de matériaux assez, qu'on espère, peu technologiques, mais efficaces. Voilà, je vous remercie de votre attention et donc je remercie l'Eurométropole de Strasbourg pour la collaboration opérationnelle durable et prolifique, tous les jeunes chercheurs étudiants qui ont participé et participent encore aux travaux, et l'Eurométropole de Strasbourg, la zone atelier environnementale urbaine, l'ONEMA, l'ENGES et le CAPELTER pour les financements au cours de ces travaux. Merci.